Les enfants, vous pouvez suivre la monitrice. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet qui doit être traité, c'est l'Église. L'Église, c'est un vaste sujet, mais c'est un sujet qui concerne tous ceux qui appartiennent à Christ, et il faut comprendre ce qu'est l'Église. Le texte que je vais vous prendre se trouve dans Éphésiens. C'est un texte que j'utilise pour le groupe de jeunes, ça fait depuis 13 semaines que nous sommes dans Éphésiens. Et si avant, on traitait nous Colossiens, Colossiens c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Éphésiens c'est vous en Christ, les richesses de sa gloire. C'est un peu le pendant l'un de l'autre, mais de deux vues différentes. Et là donc, nous allons voir quelle est cette richesse d'être en Christ, d'être dans le corps de Christ, d'être dans l'Église de Christ. Et je vous invite à prier pour remettre ce message. Seigneur, je veux te remercier. Remercier spécialement parce qu'effectivement, nous sommes dans ton corps. C'est toi, Seigneur, qui nous y a emmenés. Seigneur, c'est ce corps qui est notre abri. C'est dans ce corps que nous trouvons toutes les richesses variées de Dieu. Et merci, Seigneur, parce que nous en vivons chaque jour. Nous pouvons grandir avec elle. Nous pouvons, Seigneur, nous approcher de toi, te connaître. Merci pour ce corps. Merci, Seigneur, parce que ce corps, c'est aussi une famille, Seigneur, dans laquelle nous pouvons nous exhorter, nous soutenir, partager cet amour que nous avons chanté, Seigneur. Que, Seigneur, encore aujourd'hui, ce soit cet amour qui soit vu, Seigneur, cet amour qui vient de toi, cet amour qui vient de ta parole, Seigneur, et de ce que tu fais pour nous. Gloire te soit rendue dans ces instants. Sans Christ, cette prière. Amen. Et donc, le verset d'aujourd'hui, c'est le verset qui est ici et qui se trouve en Éphésiens, chapitre 4, verset 15. On peut l'afficher aussi, c'est peut-être un peu petit. Merci. Ce verset nous dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Quand je lisais ce verset, je dis, ça me rappelait un petit peu quand on est petit. Quand je serai grand, je serai astronaute. Quand je serai grand, je serai pilote. Quand je serai grand, je serai médecin. Vous savez, quelque chose, on le veut, et on aimerait bien le faire quand on est petit. Et puis quand on grandit, combien ont voulu être astronaute? Combien ont voulu être pilote? Combien ont voulu être médecin? Qui n'a pas déjà eu ses grands projets? Et parfois on change. À 5 ans, on veut être pilote, et puis à 6 ans, on veut être vétérinaire. À 7 ans, on veut être encore autre chose. Pourquoi? Parce que parfois, en grandissant, on comprend vraiment qu'est-ce que ça veut dire « je veux être astronaute ». Ah, souvent, quand on dit « je veux être astronaute », c'est « je veux juste être dans l'espace ». Et nous, on veut être juste dans l'espace. Je dis « c'est génial, dans l'espace, c'est magnifique ». Mais être astronaute, vous savez ce qu'il faut pour être astronaute? Vous savez ce qu'il faut? Là, il faut un doctorat. Donc ça fait des longues études. Est-ce qu'il faut être en forme physiquement ou il faut être très fort physiquement. Très fort psychologiquement, vous allez être seul dans l'espace, vous n'avez rien autour de vous. Il faut être très fort. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Et sur ceux qui ont voulu être astronautes quand ils sont petits, et le nombre d'astronautes qui sont partis dans l'espace, vous savez combien de personnes sont parties dans l'espace depuis? 500. 500 sur combien de personnes? C'est très peu. C'est très élitiste. Si vous n'avez pas le niveau, vous ne pouvez pas y aller. Et même ceux qui ont le niveau n'y vont pas tous. Combien de voyages dans l'espace il existe? Très peu. Quand le rêve disparaît, on revient toujours à la réalité. Et la réalité, pour nous, c'est fini. Ce n'est plus d'aller dans l'espace. C'est souvent d'avoir un métier et de gagner beaucoup d'argent. Et même aujourd'hui, la philosophie, ça serait plutôt gagner beaucoup d'argent et de préférence sans avoir un métier. On ne veut plus faire ce qui est juste pour obtenir ce que l'on veut. Dans le monde chrétien, ce que tout chrétien devrait se dire, c'est « quand je serai grand, je serai semblable à Christ ». Est-ce que c'est votre vœu en tant qu'enfant de Dieu? Quand je serai grand, je serai semblable à Christ. Si ce n'est pas le cas, peut-être ça pourrait être, c'est 2019, hein, une résolution. Cette année, je voudrais grandir à tout point de vue vers celui qui est à tête, qui est Christ. Amen. Faites attention quand vous dites « Amen ». Vous ne savez pas ce que cela implique. Vous dites « Amen », mais ça implique quoi? On a vu que pour être astronaute, tout le monde n'a pas le niveau pour l'être. Et quelqu'un pour ressembler à Christ, qui a le niveau pour ressembler à Christ? Qui a le niveau? Combien de personnes peuvent se dire « Moi, je peux ressembler à Christ ?» C'est encore plus élitiste qu'être astronaute. C'est zéro. Zéro. Pourtant, là, il est dit « Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. » Si nous devions compter sur nous-mêmes, ça serait qu'une utopie, un rêve. Quelque chose qu'on a dans la tête, qu'on se dit « Ah, j'aimerais bien !» Mais en grandissant, oh, c'est impossible. Je ne vais jamais y arriver. Pourtant, c'est bien ce qui nous est demandé. Au mieux, ce que nous sommes capables de faire, c'est d'être de meilleurs hommes aux yeux d'autres hommes. Mais ressembler à Christ, c'est quand même un niveau impossible. Surtout quand on sait qui l'on est. Dans le texte aux Éphésiens, il explique qui l'on est. Si on va dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1er au verset 3, il nous dit quoi ? Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre dans ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Quand nous regardons notre nature, notre capacité, non seulement on n'est pas capable d'atteindre Christ, mais on n'est même pas capable d'atteindre le moindre chose qui puisse être agréable à Dieu. La moindre chose. Nous, on vit comment ? Conformément à ce qui est dans le monde, conformément à ce qui est dans nos désirs. On n'a pas besoin de nous enseigner à vivre selon nos désirs. Par contre, on a besoin de comprendre ce qu'est vivre selon Dieu. Et vivre selon Dieu, Dieu a donné des lois. Est-ce que vous avez des lois pour suivre vos désirs ? Vous avez besoin de lois ? Vous le faites naturellement. Et quand vous le faites, c'est le péché. Ce sont les fautes. Mais pour vivre ce qui est de Dieu, Dieu a donné des lois. Il a dit, ne convoitez pas. Et nous, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? On veut toujours avoir plus. Ce qu'on n'a pas. La Bible le dit, hein. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, dit Hébreux. Mais nous, on veut toujours plus, 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 plus. C'est pour ça qu'on cherche toujours à faire moins et à avoir toujours plus. La Bible nous dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et nous, c'est toujours, et mes besoins alors? Et moi alors? J'ai besoin, je veux. On veut toujours nos désirs. La Bible nous dit, renoncez à la débauche. Et nous, on va dans l'ivresse. On flirte avec tel et un tel. On teste. Alors, on va voir si on est compatible. On va se tester, on va se mettre ensemble, on vit ensemble. Et si ça marche, on fera un parcours ensemble. C'est ce qu'on appelle de la débauche. C'est-à-dire on teste, on vérifie si c'est... quoi ? Compatible. Et si c'est compatible, on y va. Mais c'est compatible en quoi ? Si on a les mêmes désirs. Mais la Bible dit quoi ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19, 5. Citez ça dehors, et ils vont dire, c'est vieillot. C'est fini, ça. Mais c'est la volonté de Dieu, et c'est pas conforme à la volonté de ce monde. C'est une règle qui n'est pas celle du monde, parce que nous, quand nous voulons faire quelque chose, nous vivons à la façon du monde. Nous testons, nous flirtons, nous allons dans la débauche, dans la convoitise, dans l'égoïsme. Et nous dites, bah oui, tout le monde fait comme ça. Et dehors, quand nous faisons ça, est-ce que les gens nous condamnent ? Non, c'est la manière de faire de tout le monde. Mais la volonté de Dieu n'est pas conforme à la manière du monde. Mais le monde est conforme à la manière de penser d'une tête. Si on peut revenir avant le verset 2. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Il y a une tête sur ce monde. Il y a une tête qui, un esprit qui dit, voilà la manière de fonctionner. Et le monde fait quoi ? Amen. Tu es la tête. Le prince de la puissance de l'air. Vous savez qui c'est ? Produit une puissance, mais c'est que du vent. De l'air. C'est Satan. le diable, l'ennemi, celui qui dirige la manière de penser du monde. On ne le pense pas souvent. On se dit, mais les gens sont gentils quand même. Les gens sont sympas. Oui, peut-être, mais ils suivent tous la même personne. Et nous le savons parce que nous étions de leur nombre. Et nous, quand nous faisions quelque chose, nous faisions ce que la tête du monde disait. La tête du monde, l'esprit qui est actuellement en l'œuvre parmi les hommes, rebelle. Pas besoin de forcer. Personne ne nous l'a enseigné. Si notre vœu est de grandir à tout point vers celui qui est la tête, qui est Christ, la manière naturelle des hommes est de grandir en tout point en celui qui est leur tête, celui qui a la puissance de l'air, ce prince qui est à l'œuvre aujourd'hui, Satan. Heureusement, verset 4 nous dit, mon Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts en raison de nos fautes, c'est un fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous étiez morts. Et c'est là où nous étions tous. Mais tous ne sont pas ressuscités. Tous ne sont pas assis dans les lieux célestes. Pour être assis dans les lieux célestes, il faut avoir la vie avec Christ. Est-ce que vous avez donné votre vie à Christ? Est-ce que vous avez dit, Christ, sauve-moi? Est-ce que vous avez été gracié par Dieu? Est-ce que vous êtes né de nouveau? On a cité un verset, on a parlé de la nouvelle naissance. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'était les choses de ce monde. Mais est-ce que votre vie a été renouvelée ou vous viviez toujours à l'ancienne manière? Si vous souhaitez vivre, être assis dans les cieux, ce n'est pas comme être astronaute. On ne vous demande pas un doctorat. On ne vous demande pas d'être fort physiquement, psychologiquement. On vous demande juste de demander l'aide de Dieu. Dieu, sauve-moi. Alors personne ne peut atteindre le niveau de Christ. Mais si vous le demandez à celui qui a le niveau, il vous le donnera. C'est ce qu'on appelle une grâce. Vous avez quelque chose que vous ne méritez pas. Quelque chose que vous n'êtes pas capable d'obtenir. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous vécu la grâce? Êtes-vous assis dans les lieux célestes? Habitez-vous dans le corps de Christ? Est-ce que votre tête, c'est toujours le prince de ce monde ou est-ce que c'est Christ? Ne soyons pas rebelles. Vous connaissez tous ce verset, verset 8. Vous l'avez déjà entendu peut-être. Peut-être c'est la première fois. Mais il nous dit simplement, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il nous dit encore, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et encore, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Un astronaute, s'il fait partie des 500, est-ce qu'il peut se vanter? Bien sûr, il a travaillé pour. Il est physiquement fort, mentalement, il a tout réussi. Il dit, je mérite ma place d'être là-haut. Mais nous, ce qui est dit ici, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions et nous verrons que les pratiquer, ça sera aussi par lui. Au final, c'est lui qui nous a fait, il nous a créés capables, il nous a sauvés, il nous a rendu la vie. C'est lui qui a préparé d'avance les œuvres. Et il va nous permettre aussi de les pratiquer. Donc, gloire à qui? Gloire à Dieu. C'est lui qui va être la tête, c'est lui qui va mener, c'est lui qui va nous donner la capacité. Ou alors, il a raison de se vanter. Est-ce que quelqu'un va arriver au ciel et dire, c'est qui le meilleur? Est-ce que quelqu'un va arriver comme ça? Qui est-ce qui a gagné sa place au ciel? C'est moi. Non. Je fais partie des élites. Gloire à moi, si c'était le cas. Si ce n'est pas l'attitude qu'on aura au ciel, ce n'est pas l'attitude non plus que nous avons à avoir sur cette terre. En effet, nous devons avoir l'attitude conforme à la vie dans le ciel. Nous avons lu dans le verset 4, c'est en Jésus-Christ, que nous sommes assis au ciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes assis où? Au ciel. Et donc votre comportement est identique aux gens qui habitent où? Dans le ciel. Donc avec cette même attitude. J'aime ce verset, j'ai souligné encore ce matin, Éphésiens 2:18, où je ne m'en souvenais pas, je connaissais, mais je n'avais pas souvenir exactement de ce texte. C'est « À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. » Tout le monde veut accéder au Père, accéder au ciel. Mais on voit qu'il n'y a qu'un seul moyen, à travers lui, dans le corps de Christ. Si vous n'êtes pas dans le corps de Christ, vous n'aurez jamais accès au Père. Si vous n'avez pas le même esprit, vous ne comprendrez jamais et vous ne pouvez vivre dans le corps du Fils. Chacun a le même accès, un accès à travers Christ. Issus de la même nature, tous faillibles, on a tous reçu en Jésus-Christ une grâce, un même droit, un même esprit, celui de la tête qui est Christ. Alors nous allons aller vers ce même besoin, grandir à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ, tous ensemble. Est-ce que vous voulez toujours grandir à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ ? Est-ce que c'est toujours Amen ? Amen. Attention, quand on dit Amen, qu'est-ce que cela implique ? Voilà ce qu'implique être dans le corps de Christ, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est en lui que tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Quand vous entrez dans le corps de Christ, vous n'êtes plus des résidents temporaires. Ça veut dire que quand vous rentrez, est-ce que vous pouvez sortir ? Résident temporaire, c'est quoi ? C'est l'hôtel, hein ? L'hôtel, vous faites un petit billet, je viens, et puis après, quand je veux, je vais changer d'hôtel, je vais ailleurs. Mais on n'est plus des résidents temporaires. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Quand on est en Christ, on est en Christ. Demeurer en Christ. Mais ça veut dire aussi qu'on ne risque plus de sortir. C'est une sécurité. Beaucoup pensent, ah oui, un jour je suis sauvé, mais si je fais quelque chose de mal, ah c'est fini, je ne fais plus partie de l'église, je fais perdre mon salut, je perds tout. Non, c'est dit, hein, vous n'êtes plus des résidents temporaires. Et c'est l'église qui vous assure ça, l'église spirituelle. Mais vous êtes quoi ? Des concitoyens des saints. Ça implique que dans une vie d'église, dans le corps de Christ, il y a une vie de groupe. Vous êtes concitoyens, avec des règles de la cité. Il faut être un bon citoyen dans la cité céleste. Et vous connaissez, hein ? Dans toute cité, dans tout endroit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire qu'on doit comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans cette cité. Comment ça doit se passer ? On ne peut pas se contenter de dire « Je suis dans cette cité, je fais ce que je veux. » Plus encore, ce n'est pas une cité avec juste des concitoyens. On peut revenir, hein, au verset 20. Encore au verset 19, pardon. Ce n'est pas juste être concitoyen, mais vous êtes quoi, il est dit ? Membre de la famille de Dieu. C'est au-delà d'être des concitoyens. Vous savez ce que c'est une famille ? Vous avez tous une famille. On a tous des familles. Et quand on est une famille, on est lié. On doit avoir des interactions les uns avec les autres. Partager les uns avec les autres nos joies, nos peines, nos douleurs. Certes, ce n'est pas le même sang qui coule dans nos veines, mais c'est le même esprit qui coule dans nos cœurs. C'est par cet esprit que vous êtes un. Et une famille, c'est par ce même sang qui sont un. Et par des liens, d'autres liens aussi. Et quand on est une famille, il y a toujours des interactions. C'est ce lien qui nous unit, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous unit entre nous, mais surtout il nous unit avec qui ? Avec la tête. La tête du corps. Qui est Christ. Et donc, on va pouvoir vivre en tant que corps selon la tête. Quand vous étiez hors du corps, vous ne pouvez pas suivre la tête. Moi, quand je pense quelque chose, je n'ai pas le bras de Dominique qui va bouger. Vous êtes bien d'accord? Mais quand je pense à ce que mon bras veut faire, il le fait. Ma main, mon bras. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon corps. Mais si c'est en dehors de mon corps, je ne peux rien faire. Mais c'est pareil par rapport à l'Église. Si vous êtes en Christ, vous pouvez suivre Christ. Si vous êtes hors du corps de Christ, Que peut faire Christ dans votre vie? Votre tête, votre cerveau ressent, influe ce qui est dans le corps, pas sur celui du voisin. Christ est notre tête. C'est aussi notre pierre angulaire, c'est ce qui est écrit. On va pouvoir s'aligner sur sa personne, sur ce qu'il dit, sur ce qui se trouve dans l'enseignement qu'il a donné, un enseignement, et on va au verset 20, qui se trouve, un fondement qui se trouve dans ce qu'a écrit, de ce qu'a fondé les apôtres et les prophètes. Où trouvez-vous l'enseignement des apôtres et des prophètes? Où le trouvez-vous? J'entends rien, moi. Dans la Bible. Vous cherchez le fondement? Vous cherchez où se trouve la pierre angulaire? Vous cherchez comment suivre la tête? Vous la trouverez où? Ici. Pas ailleurs. Et donc, un corps, ce corps, il va fonctionner, dirigé par quoi? Par la parole de Dieu. Par Christ, qui est la pierre angulaire. Voilà une église. C'est ce qui nous différencie de n'importe quelle assemblée dehors. Vous savez, il y a d'autres endroits qui s'appellent église. Vous connaissez les scientistes? Ça s'appelle une église, hein. Ils appellent ça une église. Mais qu'est-ce qui les dirige? Est-ce que c'est la Bible? Non. Je peux appeler église s'ils veulent. Hein. Église, ça veut dire assemblée, hein. Pas plus que ça. Hein. Mais nous ne sommes pas juste une assemblée, nous sommes un corps, nous sommes une famille. Et quand Jésus-Christ a parlé, je vous cite Matthieu 7, 24, il dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison » sur le rocher. Toute personne qui entend ces paroles que je dis, qui les met en pratique, c'est un homme comment? Prudent, qui construit sa maison sur le roc. Si vous ne faites pas selon Christ, si vous n'écoutez pas Christ, si vous ne pratiquez pas ce que dit Christ, tout ce que vous construirez, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se ruiner. Ça ne sera pas sur le roc. Mais l'Église est fondée sur le roc, sur la parole de Dieu. Et nous, quand nous grandirons, nous serons fondés sur la parole de Dieu. Quand vous ouvrez vos Bibles, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus-Christ qui nous édifie. C'est sur ce roc durable qu'il construit. Et c'est l'appel que nous avons. On lit la suite au verset 21. C'est en lui que tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et on continue encore. C'est en lui aussi... C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Édifice, habitation de Dieu, corps de Christ, famille. Au final, c'est la même chose. On parle de l'Église dans tous les aspects qu'on pourrait lui donner. C'est ce qu'on appelle l'Église universelle. Ce n'est pas une habitation physique, c'est une habitation spirituelle. Et celui qui y habite, c'est qui? Habitation de qui? De Dieu en esprit. C'est ce qu'est l'église spirituelle. C'est Dieu qui habite dedans. Mais nous, nous formons un édifice pour qu'il y habite. Quel type de logement êtes-vous prêt à donner à Dieu? Quel édifice allons-nous élever? En tout cas, ce n'est pas cette pièce. Si on quitte cette pièce, est-ce que vous pensez que Dieu dit, moi j'habite ici, je ne déménage pas? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un lieu sacré? Quand on part d'ici, il va falloir demander à Dieu, il faut que tu quittes, parce qu'on va partir là-bas, suis-nous ici. Non, ce sont que des murs. Vous sortez demain, quelqu'un d'autre viendra, il fera ce qu'il veut. Est-ce que ça va salir le nom de Dieu? C'est pas ça, c'est leur attitude peut-être, mais certainement pas cette salle. Cette salle, ce ne sont que des murs. Par contre, nous, là où nous allons, là où deux ou trois sont réunis, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Le Seigneur est au milieu. C'est ça une église, c'est tout simplement simplicité, là où vous vous trouvez. L'Église sera là, là où les chrétiens sont, l'Église sera là. Recherchons donc l'édification par sa parole, cherchons à former ce temple saint, où que nous soyons, que Dieu soit au milieu. Veillons à ce qu'il ait cette habitation, ce temple, qu'il désire tant. Mais pour que cet édifice s'élève, il y a un terme qui est utilisé, on peut revenir avant. C'est en lui que tout édifice, bien coordonné, s'élève. Pour être un temple saint dans le Seigneur, bien coordonné. Ah, il y a quand même quelque chose à faire. Vous avez dit, hein, on dit amen, il y a quand même quelque chose. Il faut de la coordination. Et un modèle de coordination que j'aime beaucoup, qui est facile à comprendre, à voir, c'est un orchestre. Vous avez déjà entendu, vu un orchestre? Vous avez le droit de ne pas aimer la musique classique, hein, ou d'aimer la musique moderne. Mais quand vous entendez un orchestre, quand ça joue bien, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Et quand vous entendez, il y a différents types d'orchestres, vous avez des tout petits, mais quand vous avez un orchestre symphonique, c'est 80, 100 personnes, et vous l'entendez jouer, mais il n'y a rien qui dépasse d'un iota, mais tout est ouh, c'est incroyable. Et pourtant, il y a plusieurs instruments, et plusieurs familles d'instruments. Il y a 4 familles d'instruments, et chacune de ces familles d'instruments, il y a encore plein d'instruments en dessous, et plein de gens qui jouent. Il y a les cordes, les bois, les cuivres, les percussions, et plein de variantes. Imaginez bien que le mot bien coordonné prend tout son sens à l'intérieur d'un orchestre. Tout doit être bien coordonné jusqu'au moindre détail. Chaque musicien a devant lui une partition précise. Vous savez, ils n'ont pas toute la partition. Hein. Ils n'ont pas tout. Ils ont une partition très précise qui leur a été distribuée. Ils doivent jouer cette partition-là. Exécuter cette partition pour que la musique soit rendue telle que le compositeur le voulait. Le compositeur, il a tout fait, hein. Il a tout écrit, il a dit là je veux qu'il y ait le tuba, là je veux qu'il y ait le piano, là je veux qu'il y ait ça, ça doit rendre ce son, on doit avoir ça, tatata. Il a tout écrit. Et nous, on a une partie, on doit la jouer pour qu'au final, quand on écoute le tout, ça soit bien coordonné. Et on entend quoi? Une cacophonie? Une symphonie. Magnifique à écouter. Magnifique à entendre. Les violons ne jouent pas la même chose que les trompettes, les clarinettes, les violoncelles, les grosses caisses, le piano. Chacun joue quelque chose de différent. Chaque instrument est utile à l'œuvre. Chacun a sa place. Même le petit triangle qu'on trouve toujours ridicule avec son ting. Dites-lui de sonner au mauvais moment. Et là, vous dites, il y a un truc qui cloche quand même. Chaque instrument est utile. Il n'y en a pas un qui soit, ah mais c'est surtout lui. Chacun doit avoir son rôle. Bien coordonné, chacun sachant sa partie, l'œuvre musicale écrite par le compositeur ressort, non pas juste comme une mélodie, mais bien comme une œuvre harmonique. Vous savez, si vous dites à la plupart des enfants, joue quelque chose au piano, clair de la lune, c'est une mélodie, hein, c'est pas très grave. Mais demandez à un pianiste de jouer la même chose au clair de la lune. Et là, vous allez faire, j'ai jamais entendu clair de la lune comme ça. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il était formé pour, il a eu le don pour, il le fait, et on l'entend correctement, tel que l'on devrait entendre l'œuvre, et non pas juste la mélodie. Et lorsque nous vivons ensemble, c'est ce que Dieu nous demande aussi, qu'on serve de manière bien coordonnée, que l'on serve en harmonie. Pour que cette œuvre magnifique, qui est le temple saint, l'habitation de Dieu en esprit, puisse s'élever. Que l'on ne voit pas juste une assemblée, mais qu'on voit l'église du Dieu vivant. C'est l'œuvre. Nous serons agréables à celui qui a composé l'œuvre. Si vous jouez bien l'œuvre, le compositeur, il va dire quoi? C'est comme ça que je voulais. Ah, c'est génial comment vous l'avez fait. Mais quand vous jouez, chacun fait ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a fait le compositeur? Quel massacre! Ils ont massacré ma composition. Ils ont massacré l'œuvre pour laquelle j'avais préparé pour qu'ils le fassent. Et pour ceux qui ne croient pas que le compositeur existe parce qu'ils ne le voient pas, sachez qu'il existe. Sinon, il n'y aurait pas cette musique. C'est un petit peu ça. Le compositeur, on ne le voit pas. On ne sait pas qui c'est parfois si on n'attend pas à la fin pour dire composé par, ou début par composé par. Mais quand c'est joué, ah, vous savez que celui qui a écrit ça, il est fort. Il est très fort. On ne le voit pas, mais on sait ce qu'il est capable de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de composer, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est un peu musicien, mais je vous dis juste, pour écrire des notes les unes à côté des autres et être dans la mesure, c'est atroce. Même quand vous connaissez un peu la musique. Il y a des spécialistes pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais on ne monte pas un orchestre symphonique du jour au lendemain. On ne commence pas avec 100 personnes, avec 4 instruments, avec 10 000, qu'on appelle ça variation. Souvent, les orchestres, il existe des plus petits. Il y a juste 2 familles d'instruments. Et puis, on commence comme ça. Mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose qui est primordial dans un orchestre. Un rôle dont vous ne pouvez pas vous passer. Est-ce que vous connaissez ce rôle ?
d'orchestre.
Le chef d'orchestre. Exactement. Il doit toujours être présent dans un orchestre. Il est le seul à avoir toutes les partitions devant lui. C'est le seul. Il sait qui doit jouer quoi. Il le connaît. Et c'est lui, généralement, qui choisit qui va jouer quoi. Toi, tu vas jouer ça. Toi, tu vas jouer ceci. Toi, tu vas jouer cela. Il respecte scrupuleusement ce que fait le compositeur, tout en se l'appropriant. Il dirige tout le monde d'une main dans le rythme, de l'autre main dans l'attitude où il faut jouer. Le rythme, en quel temps? L'attitude, comment vous devez le jouer? Voilà le rôle du chef d'orchestre. Il est le seul dans tout l'orchestre à entendre tout l'orchestre. Vous savez, quand vous jouez un instrument et que vous avez quelqu'un qui joue à côté de vous et un autre qui joue à côté, je peux vous dire que moi, quand je joue au piano là, ceux qui chantent ici, je ne les entends pas. Mais j'espère qu'eux, ils m'entendent. Mais quand c'est un orchestre, 100 personnes, imaginez-vous, vous êtes là, vous avez 5 personnes autour de vous, vous pensez que vous entendez ce que fait celui qui fait de la clarinette tout au bout? Rien, vous entendez votre instrument et à la limite vos voisins. Mais celui qui est chef d'orchestre, il entend quoi? Tout. De sorte que s'il y a quelque chose à corriger, il dit... Il fait ça, ça fait comme ça. C'est lui qui dirige ces choses-là. C'est pas moi qui vais dire, hey, « Hé, toi là-bas, là, arrête de faire comme ça. » J'entends même pas, je sais même pas ce qu'il fait. Il est la tête. Et un chef d'orchestre, il est la tête. Et vous voyez quand même qu'il est différent par rapport aux autres. Il est comment? Est-ce qu'il est tout en bas et puis on ne sait pas où il se trouve? Il est élevé au-dessus des autres. Pourquoi est-ce qu'il est élevé au-dessus des autres?
Pour être vu.
Pour être vu. Les gens regardent. Ah, on fait comme ça. Ah, on fait comme ça. Et lève-toi, élève-toi. On veut te voir. On veut voir comment tu fais. On veut voir ce qu'on doit faire. On veut voir comment on doit vivre. Parce que c'est comme ça que nous vivions avec Christ. On veut voir. On veut savoir comment vivre. On veut voir ce que tu veux pour nous. On veut voir comment on doit dérouler notre partition. On veut comprendre quelle attitude, dans quel temps. Est-ce que vous consultez la parole pour savoir toutes ces choses-là? Car notre chef d'orchestre à nous, vous le savez bien, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous nous assemblons, lorsque nous servons, quelle que soit notre activité, est-ce que nous regardons au chef d'orchestre? Est-ce que nous nous disons, ah, c'est comme ça que tu veux qu'on joue? C'est comme ça que tu veux qu'on serve? Est-ce que c'est comme ça que tu veux qu'on fasse telle activité? Est-ce que c'est la manière de faire où nous disons, ah, moi je vais jouer comme je pense? Et puis l'autre dit, ah ben moi je vais jouer comme je pense. Et puis tout le monde dit, moi je vais jouer comme je pense. Et vous pensez que ça va donner quoi? Tous les bruits que vous voulez. Et les gens qui entendent, ils vont faire quoi? Ça fait mal. Pourtant, ce sont tous des musiciens. Et si vous avez écouté un petit peu une fois, quand les musiciens répètent ou accordent, bon, c'est une cacophonie, hein. Mais ça veut dire qu'il faut quand même le prendre, s'accorder. Et quand on s'accorde, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un peu de bim, bon, bon, bam. C'est toujours un peu compliqué. Mais quand c'est bien accordé, bien coordonné, il s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est ce que nous cherchons dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Eh bien, il a distribué les partitions. Il a dit, voilà, toi tu joues ceci, tu joues cela, tu joues ceci. Éphésiens 4, 11, 12. 11, 12. C'est lui, le chef d'orchestre, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et on continue. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, du temple saint, de l'habitation de Dieu en esprit. Il a distribué des partitions et il a dit, vous là, apôtres, reviens avant, vous, prophètes, vous, évangélistes, vous, bergers, enseignants, vous allez faire quoi? Vous allez former les saints. Voilà votre partition. Pour qu'ils puissent quoi? La suite. Former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire qu'avant de jouer, il va falloir faire quoi? Les former. Il y a forcément une formation dans l'Église. Il y a forcément une formation. Et vous connaissez, c'est l'ordre qu'a donné à l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En faisant quoi? Il est dit, baptisez-les Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est un début quand même. Il faut d'abord être baptisé. La première formation, c'est de suivre le Seigneur, d'obéir au Seigneur. Et ensuite, enseigne-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ferai le chef d'orchestre jusqu'à la fin du monde, mais enseignez-leur afin qu'ils pratiquent ce que j'ai prescrit, afin qu'ils puissent servir, qu'ils soient aptes, qu'ils soient formés, équipés chacun par la parole pour qu'ils jouent le bon instrument. Parce que dans le ministère précédent, c'est un ministère qui était lié qu'à la parole. On est bien d'accord, apôtre, prophète, il dit quoi encore, évangéliste, berger, enseignant. Tous liés à la parole. Mais ensuite, il y a d'autres tâches qui sont le service. Et certains sont appelés à annoncer la parole, d'autres sont appelés au service pour que ça sonne juste. Pour que, au verset 13, qu'est-ce qui est écrit ? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à une symphonie. Symphonie, c'est une unité. Ça sonne comme une unité. On a la même connaissance. De qui ? Du Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui donne la direction. Et on va tous se diriger vers quoi ? Vers lui, vers ce Fils. On va se diriger comme des enfants, avec un rêve, qui est devenir semblable à Christ, mais nous allons quoi ? Parvenir à cet état. La maturité de l'adulte à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais ça ne se passe qu'à l'intérieur de l'Église. Il faut être dans l'Église. Il faut participer au service de l'Église. Il faut œuvrer parmi les saints et avant d'œuvrer, écouter, être formé pour savoir comment œuvrer. Et là, vous aurez l'unisson, plutôt la symphonie. La symphonie. C'est une promesse. Il y a une promesse derrière tout cela. On peut lire et terminer avec cela, du chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans la manœuvre d'égarement. C'est ça, c'est toutes les fausses notes. Tous les jeux qui sont décalés. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. Et on va s'arrêter d'abord sur ça. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. Mais en disant, quoi ? La vérité dans l'amour. C'est quoi la vérité ? Où vous la trouvez ? La parole de Dieu. Et quand vous aimez quelqu'un, si vous savez que c'est la vérité, vous allez faire quoi ? Vous allez le lui dire. Si quelqu'un vous aime, il va vous dire, tu sais, le Seigneur, voilà ce qu'il veut dans ta vie. Il a un beau projet, que tu viennes dans ce corps, mais en plus, tu vas pouvoir jouer en symphonie avec Dieu. D'un seul esprit, avec Dieu. Dans l'unité, avec Dieu. Ce n'est pas un beau projet ? Vivre dans les lieux célestes et toujours vivre de cette manière, est-ce que ce n'est pas un beau projet ? Alors ma question, est-ce que votre vœu, c'est toujours de grandir à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ ? Alors disons la vérité dans l'amour. Enseignons la parole de Christ dans le but d'amener au Père. Nous ne pouvons pas servir avec ceux qui ne sont pas dans le corps. Nous ne pouvons pas jouer une symphonie avec ceux qui ne sont pas dans le corps. Mais venez, si vous n'êtes pas dans le corps, et jouez la symphonie avec nous. Nous devons toujours être à l'écoute du chef, de la tête, de sa parole. Lorsqu'il donne une instruction, obéissons. Est-ce que vous êtes baptisé ? Non, c'est l'ordre de Dieu. N'attendez pas, soyez baptisés. Est-ce qu'il vous manque des choses ? Écoutez l'enseignement avant de servir. C'est l'ordre de Dieu. Enseigne-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Formons les saints avant le service. Que chacun œuvre dans le ministère qui a été reconnu comme le sien. Il y a une promesse. Nous l'avons lue et pouvons lire la suite. Verset 16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tirera sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà un résumé de ce qu'on a dit. Vous voulez grandir ? Grandissons ensemble. C'est l'Église qui va grandir. Mais nous avons vu que nous allons grandir à tout point de vue. Parfois, on grandit ici, et puis là, ça grandit, et puis là, ça petit. Là, c'est... on grandit que sur des parties. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la parole, on essaie parfois de faire quelque chose qu'on a déjà appris, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné avant, mais dans la parole de Dieu, il nous apprend à vivre de manière équilibrée. C'est-à-dire, on sait jouer une mélodie au début, c'est bien, c'est sympa, mais quand tout grandit à tout point de vue, c'est une symphonie. Quand chacun, chaque fonction, qu'est-ce qu'il dit ? De l'activité qui convient à chacune de ses parties, se joue, il y a un édifice qui s'élève. Il y a une croissance, pas juste une croissance en nombre, pas une croissance juste en connaissance, mais une croissance à la mesure de la stature parfaite de Christ, s'approcher du Seigneur de plus en plus. Et le reste, ça se fera, non pas tout seul, mais par le Seigneur. Glorifions donc son Église, grandissant ensemble à tout point de vue, vers celui qui est la tête, Christ. Prions. Seigneur, je veux d'abord te remercier parce que nous étions des gens du dehors, Seigneur. Nous ne méritons pas ce beau projet, ce projet qui est de te ressembler, ce projet que personne ne peut atteindre. Mais toi, tu nous as donné cette Église, ce corps où nous pouvons ensemble, dans l'amour, partager, s'édifier. Nous pouvons ensemble servir, nous pouvons ensemble être agréables. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ton Église universelle, ce lieu où tu habites, mais je te remercie aussi pour cette Église locale qui représente ce temple que tu élèves. Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions être coordonnés, mais coordonnés par toi, par ton esprit, par ta parole, que nous puissions avancer dans l'unité, dans ta connaissance. Car c'est une joie, Seigneur, de te connaître, c'est une joie de t'appartenir, c'est une joie de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes au ciel, nous avons notre place, nous qui avons simplement cru en ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette grâce. Merci pour notre Église. Je te prie vraiment pour chacune de nos activités. Je te prie pour chacun des cœurs de personnes ici, que toute chose puisse être faite pour ta gloire, que ta parole soit au milieu de tout ce que nous faisons. Que tu sois glorifié, mon Dieu. Car la gloire, elle est dans ton Église. La richesse de cette gloire, elle est dans ton Église. C'est ce que tu dis. Et nous voulons voir cette richesse croître dans notre Église locale. Bénis, Seigneur, chaque personne, que tu puisses donner à chacun selon sa part, son besoin, mais aussi l'enseigner chacun pour le service, car c'est ta volonté. Bénis, Seigneur, encore les moments que nous allons passer, les cantiques que nous allons prendre, Seigneur, que tu puisses les recevoir comme un parfum de bonne odeur. C'est en Christ cette prière. Amen.